On va continuer notre méditation sur le thème consécration ou consommation. Consommation ou consécration. Alors, nous y avons déjà fait toute une introduction sur ces deux mots. On ne va pas forcément revenir sur cette introduction. Alors, évidemment, le titre est un peu provocateur, consommation ou consécration. Sous cette présentation, on dirait qu'il y a un choix à faire, soit l'un, soit l'autre. Mais nous avons vu, effectivement, que nous devons développer l'un et l'autre. Nous devons consommer toutes les grâces de Dieu, mais nous devons être également être consacrés à Dieu. Et donc, sans revenir sur ce qui a été dit, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que dans la notion de consécration, c'est une mentalité. La consécration n'est pas un devoir religieux. La consécration, c'est une mentalité. C'est dans le cœur qu'on est consacré. C'est pas seulement du bout des mains. C'est une mentalité. Alors si le cœur est touché, forcément, tout le reste suit. La consécration, c'est un révélateur de notre devoir de disciple. Et c'est pourquoi ces temps de partage que nous faisons n'est pas seulement de dire, tiens, il faut être consacré, mais ça doit aussi nous permettre de nous dire, mais si effectivement la consécration, c'est un peu le thermomètre de mon état spirituel, eh bien, où est-ce que j'en suis par rapport à tous ces points? Le but de Dieu, ce n'est pas que nous stagnons. Le but de Dieu, c'est que nous tendions à sa ressemblance. Et je crois que Jésus a été celui qui nous a donné l'exemple parfait de la consécration. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Donc c'est une mentalité, c'est un révélateur. Notre consécration est révélateur de cette disposition, de la mentalité de Christ que nous avons en nous. Et la consécration, comprenons bien, ne signifie pas activisme, mais pas l'activisme qui fait que l'on est consacré. Mais c'est la disposition, notre préférence à. Alors, c'est ce qu'on avait vu avec le premier point la semaine dernière, qui était justement, le premier point, c'était la place de Jésus. Quelle place Jésus occupe dans notre vie? Alors, j'ai pris ces deux schémas qui sont assez représentatifs, entre celui qui a un esprit plutôt de consommateur, moi, le M c'est moi, je suis le prince de ma vie, je fais ce que je veux, j'ai plein d'activités autour qui sont représentées par des points plus ou moins gros, plus ou moins intéressants, et puis parmi toutes ces activités, oui, j'ai la parole de Dieu, j'ai l'église, j'ai ma piété. Mais tout ça, en fait, c'est... Alors, si vous avez le temps de lire à la maison, Jean chapitre 6, verset 26, où Jésus, quand il y avait toute une foule qui le suivait, disait, je sais pourquoi vous me suivez. Vous me suivez parce que hier, vous êtes rassasiés. Vous venez pas parce que vous voyez en moi que je suis le Fils de Dieu. Vous venez parce que par intérêt. Et ça, c'est un peu ce schéma-là. Je suis croyant parce que je sais que j'ai un intérêt personnel. Ça, ce n'est pas la consécration. Mais être consacré, c'est quand Christ est le premier. C'est ce qu'on avait lu, Luc 14, 26, où Jésus avait dit, si je ne suis pas à la première place, celui qui ne me préfère pas à son père, à sa mère, à ses enfants, à ses frères, à son épouse, ne peut pas me suivre. La préférence, ça veut pas dire qu'on néglige le reste, mais ça veut dire que lui, il est la préférence de tout, et tout le reste de la vie est équilibré par rapport à ce que Jésus soit assis en chef sur notre cœur. Alors le point que nous allons aborder ce matin, tu peux passer, c'est la place ou la valeur, l'attachement, le désir lié à la parole de Dieu. Alors bien sûr, on pourrait prendre des semaines et des semaines sur l'importance de la parole de Dieu, mais le but n'est pas de se dire si la parole de Dieu est importante ou pas. Je pense que si vous êtes là ce matin, c'est que oui, unanimement, dire bah oui, c'est important la parole de Dieu. Mais le but n'est pas là. C'est notre consécration par rapport à la parole. Notre attachement, notre désir, notre relation par rapport à la parole de Dieu. Alors il y aurait eu beaucoup de passages à lire, évidemment. J'ai dû en faire une sélection, s'il n'est pas un sacrifice. Mais je vous invite à lire dans le psaume 119. On va lire ensemble le verset 1 à 8. Nous ne basons pas toute notre méditation sur ce passage-là, mais il servira d'introduction. Si vous avez le temps cette semaine, le désir, je vous encourage à lire tout le psaume 119. Le psaume 119, c'est un hymne à la parole de Dieu. C'est le plus long chapitre de la Bible. 176 versets. C'est C'est tout un chant. Les hymnes, c'était chanté. Donc les gens, ils ne faisaient pas comme nous, juste le fait de lire, mais ils chantaient, vous rendez compte? Ils faisaient tout un chant de 176 versets. Ils le chantaient, ils le louaient, ils célébraient ce chant, ils se le rappelaient, ils le proclamaient. Ce n'est pas pour rien que, effectivement, ce texte soit le plus long, soit le chapitre le plus long de l'ensemble de la Bible. Parce que la parole de Dieu est essentielle, elle est le centre. Alors lisons ensemble ces 8 premiers versets, qui commencent évidemment par ce magnifique mot, heureux. Heureux. On ne peut pas parler de la parole de Dieu sans parler du bonheur, mais on reviendra là-dessus. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie et qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit des ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors, je ne rougirai pas, je n'aurai point de honte à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Amen. Et vraiment, lisez le reste à la maison, lisez le reste. Et ce matin, je suis même un peu déçu intérieurement parce que je sais que ce que je vais dire ne sera qu'une petite partie de tout ce qu'il y a à dire sur l'intérêt d'avoir la parole de Dieu consacrée dans notre cœur. Consacrée ? On peut se le poser dans notre cœur, on peut se poser quelques questions personnellement et chercher à y répondre. Je ne vais pas vous demander de répondre à haute voix, mais essayez de répondre déjà dans votre esprit. Que représente la parole de Dieu dans votre vie? Qu'est-ce qu'elle représente? Le psalmiste, là au verset 1, il parle de la parole de Dieu comme étant la loi de l'Éternel. La loi. Ce qui est une règle, ce qui est un repère, ce qui est une solidité. Quelle influence la parole de Dieu a sur mes choix? Quelle influence a la parole de Dieu dans mes décisions, dans mes avis? Quelle influence a la parole de Dieu dans mes convictions politique, sociale, relationnelle? Quelle influence a la parole de Dieu sur mes décisions de chaque instant? Le psalmiste se dit que mes actions soient bien réglées, mais réglées par rapport à la loi, à la règle, à l'ordonnance. Ça, c'est de la consécration. Quelle valeur donneriez-vous à la Bible? Quelle valeur? Ben le psalmiste, il donne un prix inchiffrable. Il dit heureux. Le prix de la parole de Dieu, c'est le prix du bonheur. C'est à cette valeur-là. Elle ne doit pas avoir moins que ça. Même si on vous donne 1 million, même si vous 3 milliards, c'est pas ce qui vous rendra heureux, vous le savez ça. Mais la valeur de la parole de Dieu, elle est celle du bonheur. Celle du bonheur. Comment? Comment parlez-vous de la Bible à ceux qui vous entourent? Comment parlez-vous? Un jour, je connaissais un homme qui discutait avec un disciple d'une certaine religion. Et c'est ça, il me dit, mais toi tu me parles de ta religion, tu me parles de ton leader religieux, mais parle-moi de lui, vas-y, dis-moi tout ce que tu sais, parle-moi de lui. la personne, bah, il est comme ci, il est comme ça, comme ça. Puis, au bout de 3 minutes, il avait fini de dire tout ce qu'il avait à dire sur cette personne. Il lui dit, bah, maintenant, je vais te parler de Jésus. Et lui, il a tenu la parole pendant de longues minutes. Mais comment est-ce qu'on parle de la parole de Dieu? Aurions-nous été capables d'être comme le psalmiste, de faire 167 versets sur la parole de Dieu? Ça, c'est signe de notre consécration, de notre attachement, du débordement. On le sait, la bouche parle de l'abondance du cœur. Et si on disait, c'est quoi pour vous la Bible? Parlez-moi de la Bible. La consécration? Quelle relation avons-nous avec la parole de Dieu? Quelle relation est-ce qu'on a vis-à-vis d'elle? Le psalmiste le dit au verset 2. Ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Et c'est ça, c'est ces points-là que l'on va développer ce matin. C'est pas simplement de dire, vous savez, la Bible c'est important, ou on le sait. Mais se dire, mais dans quelle mesure mon cœur brûle par rapport à la parole de Dieu? Quel est mon rapport affectif, j'ai presque envie de dire émotionnel, est-ce qu'on a avec la parole de Dieu? Parce que je ne crois pas que l'amour ne soit qu'un principe intellectuel. Qu'est-ce qui caractérise la consécration? Quand on lit l'ensemble du psaume 119, le point qui ressort, c'est l'amour. Tu peux mettre le diapositive. C'est l'amour que le psalmiste a pour la parole de Dieu. Plusieurs fois, il va exprimer, comme au verset 47, que la parole de Dieu est pour lui des délices. Quelque chose de délicieux. Et au verset 47, il est exactement écrit ça. « Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Je les aime. » Vous savez, j'espère qu'on le dit encore à nos enfants. Quand ils disent « Ah, oh, j'adore les frites !» Non, on n'adore pas les frites, on adore que Dieu seul. « Oh, j'adore !» Non, on adore que Dieu seul. Mais c'est pas un principe seulement de mots. Il y a une réalité spirituelle. Je me demande si, à force de tout aimer, est-ce qu'on n'a pas fini par aimer la Bible comme on aime la télé? Comme on aime aller à la mer? Comme on aime un bon film? Bon, c'est aussi intéressant qu'eux. Mais la consécration, quand le cœur est touché, la consécration, c'est ça, c'est que la parole de Dieu, elle est au-dessus de tout. Elle suscite quelque chose. Il y a un désir, il y a une émotion. Je l'aime, je l'aime. Et ça, ça se travaille, ça se développe. Et là, il faut que l'on soit vigilant. Oh oui, quand on est jeune converti, on aime la parole. Dès qu'on l'ouvre, on découvre quelque chose, elle nous étonne, elle nous éblouit. Alors, tout nouveau, tout beau, comme on dit. Mais il faut que nous continuions à grandir dans cette consécration de cœur. Si nous perdons cette étincelle, si nous perdons ce désir, si nous perdons ce goût, nous sortons de cette notion de consécration. Au psaume, au verset 143, il est écrit « La détresse et l'angoisse m'atteignent. Tes commandements font mes délices. » Pourquoi j'ai voulu prendre ce verset? Évidemment, je vous ai dit, j'en ai à contre-cœur, j'ai dû en sélectionner. Mais pourquoi j'ai choisi ce verset qui dit que dans la détresse et dans l'angoisse, tes commandements font mes délices? Ça veut dire que il faut que l'on soit conscient que cet attachement de notre cœur à la parole de Dieu, cette relation, cet attouchement divin ne dépend pas des circonstances. Et j'ai même envie de nous dire, et je sais que plusieurs l'ont déjà expérimenté, que c'est justement dans les moments difficiles que la parole brille encore plus fortement quand les ténèbres nous atteignent. Ne soyons pas de ceux qui nous laissons submerger par l'angoisse, par la détresse. Et le psalmiste ne dit pas, oh ben vous savez, moi j'aime la parole de Dieu, alors tout ça ne m'atteint plus. C'est faux. On est dans un corps de chair avec des émotions, donc tout ça va nous atteindre. Mais parce que la parole de Dieu va faire ses délices, il va connaître plus tard la délivrance, la libération. Et même dans les angoisses, même dans la détresse, même lorsque l'on est perdu, même lorsqu'on n'y voit plus très clair, même quand on doute de tout, je veux faire de ta parole mes délices. Et c'est même, j'ai envie de dire, un temps de consolation, de restauration. Lorsque on perd tout, quand on perd nos moyens, quand on perd nos repères, quand humainement on ne sait plus où on en est, alors on peut s'appuyer sur la parole de Dieu. Et bien nombre de personnes, par les difficultés, par la souffrance, ont même ouvert les yeux sur d'autres passages de la parole qui ont fait alors leur délice, alors que d'autres passages pendant ces moments-là ne les avaient pas touchés de la même manière. La parole de Dieu est une richesse dans les bons jours, mais dans les jours difficiles également. Une consolation, un soulagement, un baume réparateur. La consécration, c'est aimer la parole, bien sûr. Mais ça va de pair. C'est la conserver. C'est la conserver. On l'a lu là dans ces 8 premiers versets, 3 fois. Le psalmiste dit qu'il garde la parole. Heureux ceux qui gardent la parole. Je veux garder tes statuts. Il y a un désir, il y a une réalité, il y a un attachement, il y a un combat. Et si vous lisez vraiment tout le psaume 119, vous allez vous apercevoir qu'il met vraiment l'accent sur la notion de garder la parole, de conserver, d'observer. Parce que la notion de garder, c'est ça. Ce n'est pas seulement garder le livre dans la bibliothèque. Ce n'est pas se dire, bah oui, je sais où se trouve tel livre dans la Bible. Ça, c'est de la connaissance intellectuelle. Mais c'est le sens de l'observer, de prendre soin de la parole de Dieu, de la chérir, de s'occuper soigneusement. Cette parole, je la garde au sens où il y a une autre belle image, c'est quand David dit « Je serre ta parole sur mon cœur ». C'est ça, c'est cet attachement de vouloir la conserver au plus proche de nous. Ce n'est pas prendre de la distance, ce n'est pas seulement l'avoir et puis l'oublier. Et c'est vraiment des questions salutaires qu'on est en train de voir là. La première épître aux Corinthiens, chapitre 15, Paul le dit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, par lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. À quelles conditions? Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Cette parole que nous avons entendue, cette parole qui a touché notre cœur, cette parole qui a commencé à faire quelque chose dans notre être intérieur, il faut la garder. Parce que si nous ne la gardons pas, nous aurions cru en vain. Nous aurions commencé quelque chose, mais sans aller au bout. Et on sait qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et que celui qui se relâche les frères de celui qui détruit. Nous avons une grande responsabilité en tant que chrétiens. C'est la persévérance. C'est l'endurance. La vie chrétienne est un marathon. La parole n'est pas compliquée en soi. Elle s'explique par elle-même. Et il est bon de ne pas oublier. C'est pour ça que c'est important de lire la parole, de la méditer, on va développer ça tout à l'heure. C'est Jésus qui dit en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Oh, ça ne vaut pas le coup de garder la parole? Ce n'est pas avoir la parole en superstition, en mini-pocket dans son sac à main. Ah, c'est bon, je suis gardé des accidents. C'est pas ça. C'est pas avoir des connaissances sur la Bible. Mais c'est la garder, au sens où je veille sur elle, je l'observe, je prends soin de l'observer pour la mettre en pratique. Je veille scrupuleusement à ce que je lis là, je veux le mettre en pratique, je veux le vivre. Faisons attention, parce que nous sommes dans ces temps où ce que je vais dire, je ne fais allusion à personne de connu, hein, de proche ou d'une circonstance connue. Mais Paul nous dit qu'à la fin des temps, les hommes se donneront une foule de docteurs, selon ce qu'ils ont envie d'entendre. Et c'est pour ça que je ne parle pas d'Anceny, parce qu'on n'est pas dans cette configuration-là. Mais j'entends dire dans les grandes villes, dans les plus grandes villes, qu'il y a profusion d'églises qui naissent comme ça. Avec des gens qui se disent enseignants, pasteurs, avec d'autres titres encore. Mais quand on récupère certaines personnes, elles sont cassées, elles sont vidées, elles ont été exploitées, parce qu'on leur a prêché des choses comme ça dans le vide, dans le vent. Mais celui qui garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Parce qu'on peut s'entendre des enseignements. Mais si nous sommes approfondis dans la parole, si nous la lisons, si nous la méditons, nous serons capables de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux, de ce qui est partiel. Parce qu'il suffit de prêcher quelque chose de manière partielle pour qu'elle soit fausse. Eh oui. La Bible dit que Dieu n'existe pas. C'est écrit dans la Bible. Oui, il y a un verset qui dit ça. Dieu n'existe pas. Mais j'étais partiel dans ma lecture du proverbe. Car il dit, l'insensé dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. Ah bah oui. Et on peut avoir plein de théologie comme ça, en ne prenant que des bouts de versets, ou un. Et c'est pour ça que je dis, la Bible n'est pas compliquée, mes bien-aimés. Mais il faut prendre tout ce que dit la parole de Dieu. Et c'est celui qui garde ma parole qui ne verra jamais la mort. Mais celui qui est juste consommateur, celui qui ne se satisfait que de quelques prédications, celui qui prend pour argent comptant tout ce qui est dit avec une certaine manière ou avec une force ou avec éloquence, qu'importe. Ce qui est important, c'est ce qui est écrit. Lorsque les apôtres allaient dans une ville, notamment la ville de Bérée, il nous est dit que les gens vérifiaient dans les Écritures si ce qu'on leur disait était exact. Mais ça c'est de la consécration. Ça c'est vérifié, ça c'est du solide. Ça c'est du costaud. Et ça, c'est important, si nous ne voulons pas mourir spirituellement. Il y a de nombreux échecs dans ce domaine, parce que certains ne lisent pas, ou ne veulent lire que ce qui les intéresse. Mais l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, va garder la parole, toute la parole, évidemment, vous comprenez ce que je veux dire. Il va chercher à comprendre, il va chercher à lire, il va chercher à approfondir la parole de Dieu. Je vous encourage aussi à lire plus la Bible que les commentaires. Je ne dis pas que les commentaires sont mauvais. Il y a des bons et des mauvais, hein, c'est comme tout. Hein, c'est pas... Et bon. Mais c'est important que nous, enfants de Dieu, nous gardions nos yeux fixés sur la parole de Dieu, pour que Dieu puisse nous inspirer au travers d'elle, puisse nous enseigner. La lecture de la parole de Dieu ne rend... Enfin non, la lecture de commentaires bibliques ne remplacera jamais la méditation personnelle que vous aurez de la parole de Dieu. Et d'ailleurs, ça c'est un autre symptôme de celui qui garde la parole, c'est qu'il la médite. Méditer la parole. Méditer la parole, c'est plus que la lire. Là aussi, on le voit régulièrement dans le psaume 119, où le psalmiste ne se contente pas de dire « je lis ta parole et elle me fait du bien ». Non, il dit qu'il la médite, il la serre sur son cœur. « Quand bien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Tout le jour, l'objet de ma méditation. Est-ce que vous la méditez toute la journée, la Bible ? Ça peut vous déculpabiliser, j'en suis pas à ce niveau-là non plus. Toute la journée passée à repenser à ce qu'on a lu le matin, la veille, à l'enseignement qu'on a pu recevoir peut-être à l'église, ou une cassette qu'on a entendue à la maison, et alors on réfléchit à ça, on sert ça. Méditer, c'est le mot ruminer. On ramène ce qu'on a entendu et on y réfléchit et on éprouve par rapport à ce que nous pensons, par rapport au choix que nous avons à faire. Méditer, c'est ça, c'est essayer d'appliquer, de trouver une relation entre ce que l'on entend, ce qu'on lit et ce qu'on vit. Méditer la parole de Dieu. Un homme qui prend le temps de réfléchir. Nous sommes dans une société qui fait tout pour que nous ne réfléchissions plus. Nous sommes une société qui fait tout pour nous harceler d'informations, de news, de téléphones, de textos, de ceci, de cela. La société fait tout pour qu'on ne soit jamais concentré. Mais soyons conscients que le prince de ce monde, de l'esprit de ce monde, c'est Satan. Et nous avons un effort à faire à ce niveau-là. J'entends de plus en plus de chrétiens qui me disent « j'arrive pas à prier, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à rester attentionné dans ma lecture » parce que nous sommes tellement sollicités, nous avons tellement pris l'habitude de nous laisser solliciter que dès qu'on commence à se concentrer, tac, notre propre esprit est déjà en moulinet, il a du temps, il a du mal à se fixer, à être attentionné, à méditer, à se poser. C'est tellement important. Quel que soit votre chemin, vous pouvez être assis dans votre canapé à méditer. Prenez l'air, prenez le temps de vous balader. Chacun peut trouver sa disposition, mais c'est important. Je ne suis pas en train de vous prêcher là, de la sophrologie ou quoi que ce soit. Hein. Mais l'art de se poser, l'art de méditer, l'art de laisser la parole de Dieu se décanter en nous, pour ne pas dire se diffuser tout simplement. Quand vous prenez un sachet de thé, même si l'eau est chaude, même si c'est le meilleur d'été, si vous la laissez que 2 secondes, votre eau, elle va pas avoir suffisamment de goût. Mais avec la parole de Dieu, c'est pareil. Si on la lit, on ferme et on passe à autre chose. C'est comme si vous aviez infusé pendant 2 minutes et vous retirez votre... Enfin, 2 secondes et puis vous retirez votre sachet et puis vous essayez de boire votre thé. Il n'y a pas de goût, ça va le goût de l'eau et un petit peu de quelque chose. Mais plus vous laissez le sachet infuser, et plus votre eau aura de la saveur. Il en est de même de la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, j'ai entendu ça sur, ou lu ça sur un article. La personne disait qu'on est dans une société où on a de plus en plus d'informations. On est dans une société qui a de plus en plus de connaissances, mais de moins en moins d'intelligence. Nous avons beaucoup de connaissances, beaucoup d'informations. Avec Internet, on n'a jamais été aussi proche de la connaissance des choses. Mais on est une société de moins en moins intelligente parce qu'on ne laisse pas cette connaissance nous former, nous transformer, changer nos mentalités. Normalement, le but de la connaissance, c'est ça. C'est nous rendre plus forts, plus intelligents, plus disponibles, plus aptes aux choses. Mais on s'aperçoit que c'est complètement l'inverse. Les gens sont remplis de connaissances, ils savent tout sur tout maintenant. Mais quant à la mise en pratique, quant à la capacité, on est surpris. Ne soyons pas pareils. Ne soyons pas seulement des hommes, des femmes qui connaissons des choses sur la parole de Dieu. Mais laissons l'intelligence de la parole de Dieu nous imprégner, nous influencer. Et c'est ça la différence entre des consommateurs et des consacrés. On peut être des consommateurs de la parole de Dieu, connaître des versets et les sortir comme ça. Mais avons-nous l'intelligence de la parole de Dieu? Sommes-nous par notre conduite des hommes qui reflètent que nous sommes imprégnés, infusés de la parole de Dieu? La parole de Dieu n'a pas seulement pour vertu de nous donner de la connaissance, mais vraiment de nous enrichir dans notre être personnel. Le verset 148 dans le psaume 119. Le psalmiste dit « Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Je devance l'éveil. C'est-à-dire que le psalmiste savait très bien qu'une journée est remplie. Alors il anticipe sa journée. Il dit voilà, je devance l'éveil. Avant qu'il y ait tout le remue-ménage de la vie active, et ben j'anticipe ces choses parce que je vais prendre un temps spécial pour lire ta parole et pour la méditer. Alors que ce soit le matin, que ce soit le soir, que ce soit le midi, chacun doit organiser son temps comme il le peut. Mais il est important d'avoir du temps pour méditer la parole, pour se poser. Méditer, ça ne prend pas forcément 3 heures, hein. Mais ne serait-ce qu'une demi-heure à méditer. Une demi-heure à dire, tiens, mais qu'est-ce que j'ai lu? Qu'est-ce que j'ai lu dans ta parole? Qu'est-ce que ça m'apprend? Quelle application concrète je peux avoir? Je viens de lire un passage, mais ça m'apprend quoi sur Dieu? Ça m'apprend quoi sur moi? J'apprends quoi sur ce que tu attends de moi? Prenez cet exercice, vous verrez. Une demi-heure, c'est... c'est pas si grand, c'est pas si long. Et vous allez voir que ça fait un travail important dans un cœur. Le fait de méditer, et pas seulement le fait d'avoir lu. Ah oui, j'ai lu, ok. Et puis je passe à autre chose. Apprenons à méditer. Il en est de même par rapport à la prédication, à la vie de l'Église. La vie de l'Église a pour but de nous encourager, de nous donner des directions. Mais elle ne remplacera jamais la méditation personnelle. Lire des livres, c'est bien, mais elles ne remplaceront jamais la méditation personnelle que vous aurez avec la Bible. Le psalmiste ne dit pas « Oh, quand je lis des commentaires bibliques, oh, ça réjouit mon cœur !» Il dit « C'est la méditation de ta parole qui réjouit mon cœur. » Alors, nous avons droit de lire des commentaires, hein. Faisons. Mais qu'il y ait cette préférence, ce premier rang à la parole de Dieu. D'autant plus que pour ceux qui l'expérimentent, quelle joie quand on médite la parole de Dieu et qu'on sent que le Saint-Esprit fait un travail en nous, qui nous éclaire, qui nous stimule. Qu'on est en train de méditer et paf, ça nous fait penser à un autre verset de la parole. Et ça nous éclaire, ça nous permet de comprendre la parole et de la serrer mieux sur notre cœur. On sent qu'on est en train de découvrir une puissance, une force. C'est cela que de méditer, c'est de se fortifier en soi. Le psaume 119, c'est pas seulement un poème, un chant sur la parole de Dieu. Mais le psaume 119, c'est un vrai témoignage de vie. Si vous lisez le psaume 119, je vais dire le témoignage 119, mais c'est ça. Parce qu'il n'est pas seulement en train de parler de choses intellectuelles. Il parle de sa vie. Il parle de ce qu'il vit. Il parle de ce qu'il ressent dans les jours de joie et dans les jours de difficulté. Dans les jours d'interrogation et dans les jours de victoire. Et chaque fois, vous voyez que ce qui fait le fil conducteur de sa vie et les aimants clés de ce qu'il vit, c'est la parole de Dieu. Je vais juste vous citer quelques aspects de sa vie et ce que la parole de Dieu lui procure. Bien sûr, là aussi, je n'ai pas fait la liste de tout. Mais au verset 111, il va parler que la parole de Dieu lui communique la joie. Au psaume 165, il va parler que la parole de Dieu lui communique la paix. Au verset 41 et bien d'autres, hein, le relèvement, le salut. Au verset 114, la sécurité. Au verset 24, le conseil. Au verset 98, la sagesse. Au verset 100, l'intelligence. Au verset 116, l'espérance et la vie. Et on pourrait encore continuer comme ça. Lisez le psaume. Lisez le témoignage. 119. Et vous allez vous apercevoir toutes les richesses qui peuvent en découler de la parole de Dieu. Mais ne perdons pas le fil. Ce n'est pas seulement la parole de Dieu qui communique ces choses-là. C'est parce qu'il est attaché à la parole de Dieu que la parole de Dieu lui communique ses richesses. Je ne veux pas qu'on perde de fil la notion de consécration. Elle fait mes délices parce que j'aime ta parole. C'est parce que je garde ta parole que je ne vois pas la mort. Il y a une bénédiction parce qu'il y a un cœur qui est consacré. Au verset 176, et le psalmiste termine d'ailleurs son témoignage comme ça. Il dit « Je suis errant comme une brebis perdue. » Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. À un moment, il parle de son égarement, il parle qu'il est un peu perdu. Mais parce qu'il va mettre en évidence le fait que « mais je garde tes commandements », alors il a l'assurance que Dieu viendra en secours. Ce n'est pas le fait d'avoir la Bible qui t'importe, mais ce qui t'importe, c'est de savoir quel est ton état de cœur par rapport à la parole de Dieu. Et c'est ça qui est déterminant. On peut être des grands cultivés. J'ai ouï dire que Karl Marx connaissait la Bible par cœur. Ça n'a pas fait un homme de Dieu selon le cœur de Dieu. Hein. Mais il connaissait. Alors qu'on peut voir des hommes et des femmes qui découvrent l'Évangile. Mais tout de suite, ils serrent cette parole. Ils aiment cette parole. Et on voit des cœurs qui changent. On voit un épanouissement. Ils font des expériences fortes. Quelle est la différence? La différence, c'est la disposition de cœur. la disposition de cœur par rapport à la parole de Dieu. Esdras, un témoignage extraordinaire. Vous le lirez à la maison, c'est au chapitre 7, versets 9 et 10. Il est dit, la bonne main de son Dieu était sur lui. Est-ce que vous voudriez que la bonne main de votre Dieu soit sur vous? Vous voudriez sentir l'approbation de Dieu sur votre vie? Dans vos affaires, dans votre cœur, dans vos difficultés, la bonne main de l'Éternel était sur lui. Mais la main de Dieu, quoi, hein? Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois, les ordonnances. La bonne main de l'Éternel était sur lui car il appliquait son cœur à méditer, à étudier et à mettre en pratique la parole de Dieu. Si le cœur d'Esdras n'était qu'un cœur de scribe, qu'un cœur de religieux, la main de l'Éternel n'aurait été pas sur lui. Et c'est ça, on ne va pas s'éterniser sur ce point-là, mais prenons le temps quand même de voir la notion de consommation. Le psalmiste était conscient, et c'est au verset 92 que je vais vous lire entièrement, où le psalmiste dit « Si ta loi n'avait fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère. » Si ta loi n'avait fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère. Et ça, il n'est pas en train de dire « Ah, si je ne connaissais pas ta loi, j'aurais péri. » Il ne dit pas ça. Si je pouvais paraphraser, si vous me permettiez que je paraphrase ce verset, on pourrait dire « Si je connaissais la loi, mais que mon cœur n'y était pas amoureux, alors j'aurais péri dans ma misère. Si ta loi n'avait fait mes délices. » Donc il dit bien qu'il avait la loi. Et ce qu'il met en évidence, ce n'est pas d'avoir la loi, mais c'est que cette loi lui fasse ses délices. Si ta loi ne faisait pas mes délices, alors je serais dans ma misère. Faisons attention. La consécration est révélatrice de notre état spirituel. On peut mourir spirituellement tout en allant à l'église. On peut mourir spirituellement tout en lisant la Bible, mes bien-aimés. On peut mourir spirituellement tout en priant, parce que le cœur n'y est plus. Parce que la parole de Dieu ne fait plus son écho, son effet. Parce qu'on prie comme des moulins. Parce qu'on vient à l'église, mais de toute manière, quoi qu'il soit dit, ça ne changera pas grand-chose à notre façon de réformer nos vies. La consécration n'est pas un devoir, mes bien-aimés, mais c'est une condition de salut. Le Seigneur nous dit que, à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se sera refroidi, mes bien-aimés. C'est mon devoir de prédicateur et de pasteur de vous parler ainsi, mes bien-aimés. Jésus ne va pas chercher des religieux. Jésus va chercher des amoureux. Jésus ne va pas venir chercher chez des chauffeurs de salle, mais des cœurs chauffés. Si ta loi n'avait fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère. Est-ce que c'est grave, frère, si je n'ai pas lu la Bible? Est-ce que c'est grave, mon frère, si aujourd'hui je n'ai pas lu ma Bible? Est-ce que c'est grave si de temps en temps je ne lis pas ma Bible? Ben, ça dépend. Ça dépend. Si c'est un accident, et que tu sens dans ton cœur que vraiment il te manque quelque chose, alors c'est pas si grave. Parce que tu as encore ton cœur qui est en train de réaliser ta propre misère. Parce que tu sens que tu n'as pas lu ta parole, tu sens qu'il te manque quelque chose. Et toi-même d'ailleurs, si tu te poses la question si c'est grave, c'est que tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque. tu peux encore t'en sortir. Regarde, c'est grave si je lis pas ma Bible. C'est grave si t'entends, j'ai... Ça dépend. Parce que si tu me poses la question juste pour te rassurer, tu en fait, tu l'as pas lu parce que en fait, que tu la lises ou que tu la lises pas, c'est à peu près pareil. Si de toute façon, tu sens pas forcément une misère, une tristesse au fond de toi, alors oui, c'est grave. Ça veut dire que tu es déjà spirituellement mort. Alors à la question, est-ce que c'est grave si je lis pas ma Bible, est-ce que c'est grave? Bah, j'ai envie de vous dire, dites-moi, qu'est-ce qui est le plus grave, d'être malade ou d'être mort? Qu'est-ce qui est le plus grave? Les deux cas peuvent être très graves. Parce que celui qui est malade peut aller courir à la mort. Mais il peut encore aussi se soigner, se redresser, prendre le traitement adéquat, qui est la parole de Dieu, et retrouver la vie. Le mort, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Mais on a un Dieu de miracle. Amen. Et pour ça, il suffit de se repentir, de dire « Seigneur, je veux retrouver ce cœur qui aime ta parole. Je veux retrouver des désirs dans mon cœur. Je veux appliquer mon intelligence à méditer ta parole. Je veux me laisser reséduire par ta parole. Je veux retrouver la crainte de ta parole. » Je veux retrouver l'obéissance, je veux retrouver le sérieux à la parole de Dieu. Je veux reconsidérer que ce livre-là n'est pas seulement un livre-là d'occupation de mon temps spirituel, mais quel est le moyen de dialogue avec mon Dieu? Quel est le moyen d'illuminer mon cœur? Quel est le moyen de nourrir mon âme? Quelle est la puissance de Dieu pour me redonner de l'engagement spirituel? Est-ce que c'est grave? 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 10 nous parle aussi qu'à la fin des temps il est parlé de ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés, et on retrouve encore cette notion de consécration qui n'est pas liée à la lecture de la Bible mais de l'amour par rapport à la parole de Dieu. Ils n'ont pas l'amour de la... Bon, c'est pas grave, oh, faut pas exagérer, ils vont bien à l'église. Ça suffit pas, mon frère. Oh, voyons, ils sont fidèles. Ils servent à l'église, même. Mais où est l'amour de la vérité? Jésus le dit, hein, il définit la vérité. Hein. Ta parole est la vérité. Hein. Sommes-nous des amoureux de cette parole? Je voudrais juste terminer... avec trois rappels, trois versets. 2 Timothée chapitre 3 verset 16 qui nous dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu. Rappelons-nous que ce que nous avons là entre les mains, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit est la parole de Dieu. Quand nous lisons quelque chose de ce livre, nous savons que c'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui nous dit quelque chose. Et dans l'Ancien Testament, quand il est parlé de la Bible, il en est parlé avec des mots de ordre, de commandement, de loi, de statut. La parole de Dieu n'est pas négociable. Et la culture du peuple juif, c'était de respecter la parole de Dieu comme la loi que nous devons appliquer au quotidien en dehors, par rapport aux impôts, par rapport au code de la route, par rapport au travail, par rapport aux relations avec nos voisins. Il y a des lois, tout est régi par des lois, n'est-ce pas? Et nous faisons, normalement, à chaque instant, nous faisons attention à ce que nos actions soient menées par rapport à la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Et nous, peuple de Dieu, nous ne sommes pas censés ignorer la loi de Dieu. Mais est-ce qu'elle a encore cette autorité dans notre vie? Ou est-ce que nous nous permettons, de temps en temps, d'outrepasser les commandements? Oui, je sais que, bon, mais il ne faut pas exagérer. C'est toi qui vois, mon frère. Oh, Oh, faut pas être un. Ça, c'était avant, mais maintenant. Ah bon? Avant, maintenant, c'est plus la parole de Dieu? Elle est démodée? Ah oui, mais vous comprenez, ça, c'était à l'époque. Ah bon? La parole de Dieu nous dit que les anges nous regardent, que c'est Dieu qui nous regarde. Et qu'on sera évalué non pas par rapport à la mode de notre société, mais par rapport à la parole de Dieu elle-même. Tout ce qui est écrit s'accomplit, mes bien-aimés. Il y a en Deutéronome deux chapitres incroyables où on a le choix. Soit de choisir le chemin de la bénédiction, soit de choisir le chemin de la malédiction. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si on va obéir à la parole de Dieu ou si on va désobéir à la parole de Dieu. Dieu dit, si tu obéis à mes commandements, voilà, je vais te bénir dans ta maison, dans tes champs, dans tes affaires, en tout domaine, je te bénirai. Mais si tu décides de ne pas obéir, ben tu auras la peste, tu auras des difficultés, tu connaîtras le dessèchement, ton âme sera languissante, abattue, tes ennemis te vaincront, tu auras des problèmes familiaux, etc. Lisez. Dieu dit, voilà, mais c'est vous qui choisissez. Soit vous décidez d'aimer ma parole et de la mettre en pratique, et moi je vous engage, enfin c'est pas le pasteur qui parle, hein. Et Dieu dit, je m'engage à vous bénir, mais vous pouvez aussi faire le choix de faire comme vous voulez. Mais je vous préviens, c'est pas une punition, c'est une conséquence. Vous aurez des difficultés à tous égards. Qu'est-ce que l'on va choisir, mes bien-aimés? Parce que ce qui est écrit dans la parole, tout s'accomplit, tout. En fait, c'est pas un piège que Dieu nous tend jamais. C'est pas des menaces. Est-ce que vous avez déjà vu Dieu vous menacer? Jamais. Jamais. Il nous met un choix devant nous. Qu'est-ce que tu vas choisir? Et il nous encourage, choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, parce que Dieu veut nous bénir. Mais il y a un choix à faire par rapport à cette parole. C'est en 2 Timothée chapitre 2 verset 13 où il dit, si nous nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Alors souvent il m'est arrivé d'entendre une mauvaise interprétation du genre, ah si nous sommes infidèles, alors vous inquiétez pas, Dieu va rester fidèle à nous bénir. Non, c'est pas ça. D'ailleurs, la suite du verset le dit. Si nous nous sommes infidèles, si nous nous décidons de faire ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, lui demeure fidèle car il ne peut pas se renier lui-même. C'est entendu, ce qu'il a dit, il est obligé de l'accomplir. Donc si nous décidons d'être infidèles à Dieu, mais lui va continuer à être fidèle par rapport à ce qu'il a dit. Et il accomplira les malédictions qu'il a dites. Et je crois, mes bien-aimés, qu'il y a des souffrances personnelles, des lourdeurs spirituelles, des manques de victoire spirituelle, parce que nous manquons de cet amour véritable par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Une question. Est-ce que la parole trouve encore ce rôle dans ma vie? Est-ce que la parole de Dieu m'enseigne encore? Est-ce que la parole de Dieu me convainc encore? Est-ce que la parole de Dieu me corrige encore? Attends, à mon âge. Est-ce que la parole de Dieu m'instruit encore? Mais moi j'ai grandi à l'heure des enfants, j'étais déjà. Ah oui? Mais le psalmiste aussi, hein? Ben oui. Et le problème n'est pas de savoir si c'est la parole de Dieu qui est mise en défaut ou pas, mais de savoir si c'est notre cœur qui se laisse encore corriger, reprendre, instruire. Quand je regarde à ma propre vie, tant qu'il y aura de la susceptibilité, tant qu'il y aura de la critique, tant qu'il y aura de la légèreté, tant qu'il y aura un manque de foi, tant qu'il y aura un manque d'amour, tant que ma vie spirituelle sera médiocre, je crois que la parole de Dieu peut encore me corriger. Je crois que la parole de Dieu peut encore m'enseigner, me convaincre et m'instruire. Et on peut chacun faire le bilan de sa propre vie. Si quelqu'un est parfait dans cette salle, qu'il soit béni de tout mon cœur. Et je lui souhaite, mais vraiment, hein, je lui souhaite. Mais si jamais quelqu'un observe encore, quelques petits soucis personnels. Alors je crois qu'on pourrait se dire, est-ce que je ne voudrais pas encore laisser la parole de Dieu m'instruire, me corriger, me reprendre, me remettre les points sur mes i, me remettre mes t sur mes barres sur mes t, enfin vous prenez les expressions que vous voulez. Mais tant que nous savons que nous avons encore du travail à faire, ce n'est pas la prédication qui fera ce travail-là. Ce sera la méditation de la parole chez vous. Ce sera le travail de la parole de Dieu. Et j'ai même envie de vous dire, ce sera l'amour que vous aurez pour la parole de Dieu qui vous permettra de faire ces progrès-là. L'objectif de la parole de Dieu, c'est vraiment de nous rendre accomplis. L'homme de Dieu accompli. Parfait. Personnellement, j'ai une bonne marge. La source de la foi, elle vient de la parole de Dieu. Et nous serons très courts sur ces deux derniers points. Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la parole de Christ. Mais bien aimé, je ne veux pas que ce matin, quelques-uns se sentent culpabilisés ou écrasés. Ou « Oh là, je suis un mauvais chrétien. » Ça n'a pas de sens. On a déjà eu l'occasion plus d'une fois de parler de ça. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de mauvais chrétien. Il n'y a pas de mauvais parents. Il n'y a pas de mauvais enfants. On doit faire honnête avec nous-mêmes et ne pas chercher à plaire à Pierre, Paul, Jacques, mais à Jésus. Mais si nous nous sentons faibles, si nous nous sentons fragiles, si nous sentons que nous manquons de foi, parce que tout est basé là-dessus, sur l'amour et la foi, la vie chrétienne est très simple. C'est l'amour et la foi, la foi et l'amour, l'amour et la foi, la foi et l'amour. Si vous recherchez ces deux choses-là, vous serez un chrétien parfait. Mais si nous sentons que nous manquons de foi, c'est la parole de Dieu qui nourrit la foi, mes bien-aimés. C'est la parole de Dieu. C'est cet amour pour la parole, c'est cette relation à la parole. Mes bien-aimés, je vous en supplie. Si vous réalisez que vous manquez de foi, le traitement n'est pas compliqué. Mais il nous nécessite cette consécration de cœur vis-à-vis de la parole de Dieu. Seigneur, redonne-moi du goût à ta parole. Seigneur, je veux retrouver cette sensibilité. Et Paul dira, et on terminera sur ce point-là, « Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, mes bien-aimés. Je n'ai pas honte, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Cette parole que vous avez en main, c'est elle seule qui peut nous donner la vie. » La vie présente la vie éternelle. C'est la seule qui a la puissance de chasser nos ténèbres. C'est la seule qui a la puissance de nous faire sortir de notre misère. De notre misère, celle qu'on est en train de dire. Celle qui nous emmène, qui nous anesthésie. Et qui peuvent que peut-être, si le Seigneur revient demain, certains resteront sur cette terre. Parce qu'ils sont complètement anesthésiés. Ce qu'on a besoin, c'est cette puissance amoureuse. C'est cette puissance de grâce. C'est cette puissance qui nous attache à la parole. C'est cette puissance qui nous inspire. Cette puissance qui fait que la parole de Dieu, elle fait notre bonheur, mes bien-aimés. Toutes les choses de la terre déçoivent, toutes. L'Église peut décevoir. Mais nous, ce qu'on doit rechercher, c'est que la parole de Dieu fasse nos délices. Dans nos angoisses, dans nos craintes, ta parole fait mes délices. Dans mes combats, Seigneur, ta parole est ma force. Seigneur, dans mes interrogations, ta parole me conseille. Et bien-aimés, soyons conscients que quand Dieu nous appelle à la consécration vis-à-vis de sa parole, ce n'est pas le nombre de chapitres qui importe, mais c'est les sentiments de notre cœur vis-à-vis de sa parole. Amen.